Potentiel, le podcast qui t'aide et t'encourage à explorer et développer tous tes potentiels. Oser être soi avec toutes ses particularités, voilà en quoi consiste mon travail depuis des années. Moi, c'est Élodie, diplômée en psychologie, en psychanalyse, coach, médiatrice familiale, formatrice et autrice de nombreux livres sur les atypies. Moi-même concernée, multipassionnée et au multipotentiel, j'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas? C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Eh bien, bonjour Marine, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Potentiel. Un grand merci à toi d'être là.
Bah, merci Élodie de l'invitation, je suis ravie aussi.
Et comme je te disais effectivement en off et puis quand je t'ai contactée, tu vas nous parler d'un sujet hyper important qui m'est souvent demandé. Et pour ça, eh bien, laisse-moi la possibilité de te présenter à nos éditeurs. Si jamais je me trompe ou que j'oublie quelque chose, n'hésite pas à préciser.
Ok.
Alors, voilà. Marine, tu es psychologue clinicienne. Tu es spécialisée donc dans l'accompagnement de l'enfant, dans la parentalité, avec, j'ai envie de dire, une casquette plutôt aussi sur les émotions, notamment, donc tout ce qui est accompagnement des émotions, et ça va être le grand sujet qu'on va nous demander à chaque fois, je suis sûre. Tu utilises de nombreux outils, d'ailleurs, tu manques pas, je trouve, de créativité pour juste créer, en plus, de nouveaux outils pour les parents. Il y a des bases de psychologie positive et de techniques psychocorporelles, ce que je trouve hyper intéressant, parce que lorsque on parle d'atypie, on parle souvent d'enfants qui sont parfois un peu déconnectés de leur corps, et on aura l'occasion d'en parler. Tu as écrit un livre qui est super, c'est « Mon enfant est anxieux, stress, peur, explosion émotionnelle, le guide pour aider votre enfant », où tu parles des différentes formes d'anxiété. On en parlera toi et moi, parce qu'il y a différentes manières de voir l'anxiété, et de l'accompagner avec des outils pour les émotions, pour apprendre les enfants à se détendre, à s'apaiser. Je mettrai bien sûr le lien de ce superbe livre en barre d'infos. Mais tu proposes également plein d'autres outils, comme j'ai vu, notamment un atelier, et ça je ne savais pas, j'ai découvert en faisant mes recherches, figure-toi, un atelier de formation sur le TDAH. Donc ça sera l'occasion aussi d'en parler, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Et j'ai vu que tu avais collaboré avec Élodie, qui est coach sur Maman se réoriente, et je me dis que ça peut être toujours l'occasion aussi de parler de ce très beau programme, très beau projet que vous avez fait toutes les deux, qui mêle coaching et psychologie, et je trouve ça fantastique, parce que je trouve qu'en France, on a tendance à trop séparer les deux, alors qu'en fait, c'est génial d'allier les deux, quoi. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ou est-ce que tu veux préciser quelque chose? Dis-moi.
Eh ben non, écoute, ça me semble pas mal du tout. T'as bien bossé, effectivement.
Bon, ça va, je fais bien mon taf. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je te disais, ce podcast potentiel, il est là non pas pour en fait nier les difficultés qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir face aux atypies. Elles sont là, on le sait. Mais surtout pour se dire, bon, ok, maintenant qu'elles sont là, on en fait quoi? En fait, concrètement, il faut bien qu'on avance avec. Et là, tu vois, je suis moi-même maman de 4 enfants atypiques. Parfois, c'est dur. Déjà, c'est dur d'être parent. Mais en plus, face aux atypies, il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup de difficultés et il y a quelque chose qui revient souvent dans les accompagnements que je fais ou tu vois sur les réseaux sociaux, la question de l'accompagnement des émotions à un niveau des fois où on se dit mais l'intensité et la fréquence, eh bien, il y a beaucoup de parents qui se disent mais est-ce que c'est normal en fait? Et ça déclenche beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, autant chez le parent comme chez l'enfant parce que ça se relie l'un et l'autre.
Des bases communicants.
Exactement. Et j'aimerais donc développer ce sujet avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, déjà, est-ce que tu peux nous dire concrètement, pour ceux où c'est un peu flou, la différence entre angoisse, anxiété et stress? J'ai l'impression qu'on utilise un peu tous ces termes pour dire la même chose.
Exactement. Souvent, enfin, dans le langage courant, on utilise l'un ou l'autre. Mais en fait, dans la sémantique, c'est bien différent. Le stress, on va parler vraiment d'un état ponctuel avec une intensité, on va dire, faible à modérée. Ça, c'est le coup de stress, par exemple, je vais à l'école, j'ai ma poésie à réciter le matin. Voilà, j'ai la boule au ventre, le coup de stress avant d'arriver à l'école. L'angoisse, on va être aussi sur un état ponctuel, malgré des fois ce qu'on pense de l'angoisse. L'angoisse ne dure pas toute la journée. Une angoisse, quand des gens disent « je suis angoissée toute la journée », non, ce n'est pas de l'angoisse. L'angoisse a un début et une fin. C'est d'ailleurs ce qui aide hein, quand on est en une crise d'angoisse, c'est se dire ça va s'arrêter. L'angoisse s'arrête toujours. Donc l'angoisse est aussi ponctuelle, mais à la différence du stress, là on va être sur une intensité très élevée. C'est vraiment la différence d'intensité qui fait varier si on est dans le stress ou l'angoisse. Et l'anxiété, par contre là, on est sur quelque chose de chronique et on n'est plus du tout dans le ponctuel. L'anxiété, c'est, tu sais, l'espèce de vieille copine là qui te colle au dos toute la journée. Et puis par moment, elle prend toute la place. Il y a d'autres moments où elle est un peu plus discrète. Mais en tout cas, elle est toujours là. Et là, on va être sur une intensité faible à modérée. Dans l'anxiété, on n'est pas sur quelque chose à toute la journée d'un stade très élevé. Donc c'est ça qui permet de différencier.
Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est parce qu'il y a des états de stress et d'angoisse en fait récurrents qu'une anxiété peut se développer?
Oui, bah en fait, voilà, ça va ensemble. Dans le trouble anxieux, voilà, dans le trouble anxieux généralisé, on va avoir des temps de stress chronique dans la journée, des pics d'angoisse, et puis ça crée un fond d'anxiété parce qu'on a quoi qui arrive? L'anticipation, vraiment le gros souci dans l'anxiété qui vient toujours dire, attends, là, je vais aller au cinéma, mais et si je fais une crise d'angoisse? Voilà, donc tu vois, et ça crée le fond anxieux.
Alors, la question que je pense que tous nos auditeurs vont se poser, c'est est-ce qu'on en guérit de ça? Parce que souvent on entend, est-ce que vous avez un tempérament? Est-ce que vous avez une personnalité à tendance stressée, angoissée? Donc, on a l'impression que genre, c'est fichu, c'est comme ça, tu vivras toujours comme ça. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est considéré comme tel?
Non, moi, j'aime pas quand on dit, quand on parle d'une personne anxieuse, d'une personnalité anxieuse. Alors là, c'est vraiment, vas-y, mets l'étiquette, mets les chaînes et t'en bouge pas. Non, c'est, comme je te disais, l'anxiété, quand c'est la vieille copine qui te colle trop, bah, il y a des moments où la copine, elle va prendre un petit peu de distance. Il y a des moments de ta vie, elle va être un peu plus là. Mais elle va pas te qualifier. Tu n'es pas que cette vieille copine qui te colle au basket, tu es tout un tas d'autres choses. Donc, si on prend l'anxiété comme un tempérament, comme un trait de caractère, on zappe toutes les autres facettes de la personnalité. Donc non, c'est ça peut être dit comme un fonctionnement, un symptôme, mais ce n'est pas quelque chose qui qualifie. Et donc, on peut, par des techniques ou en se faisant accompagner si on atteint un certain stade et on a besoin d'une aide extérieure, pouvoir réguler cette anxiété, la faire diminuer, voire même ne plus cohabiter avec elle.
Donc, pour tous les parents qui pourraient se demander est-ce que mon enfant sera toujours angoissé, anxieux, aura toujours des pics de stress, qu'est-ce que tu pourrais leur répondre?
Moins on focalise dessus, moins on s'enferme dessus, mieux ça sera. Si un enfant, alors moi très clairement, c'est ce que j'ai entendu toute mon enfance, elle est anxieuse. Elle est anxieuse, elle est stressée. Bah à un moment donné, on dit, bah t'es comment? Bah je suis anxieuse. Mais ça fait le truc, dit alors que ça n'a aucun sens, que ça résonne pas à l'intérieur, mais tu l'as tellement entendu. Il y a des enfants qui sont plus à l'aise que d'autres pour prendre la parole devant la classe. Il y a des enfants qui sont plus introvertis, d'autres extravertis, qui ont besoin d'avoir 15 copains, d'autres un copain. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais vraiment, tant que l'enfant est bien dans son quotidien, dans sa vie, s'il n'aime pas réciter des poésies, on ne va pas se dire, ah mais là là, mais non. Moi, j'ai détesté réciter des poésies toute ma vie. Ça a été les exposés, les trucs, l'enfer. Bah maintenant, je donne des formations, je parle avec tout un tas de gens sur les réseaux sociaux, je participe à des podcasts. Je ne dis pas que je suis à l'aise. Avant une formation en présentiel, je suis absolument jamais à l'aise. Mais néanmoins, je le fais. J'ai mes techniques pour réguler mon stress sur le moment et je vis le moment présent et je kiffe et j'en demande et je le refais. Donc, voilà, c'est certainement pas une étiquette qui enferme et il faut surtout pas ne voir l'enfant que dans ce prisme-là. Il y a tellement d'autres choses pour le voir.
Est-ce que tu dirais que c'est souvent des enfants qui sont hypersensibles ou est-ce que pour toi, il n'y a pas de lien entre la haute sensibilité et justement eh bien, l'état d'anxiété?
On va pas retrouver dans les troubles anxieux plus d'hypersensibilité. Par contre, cliniquement, je veux dire que les enfants à haute sensibilité que j'ai pu suivre ont très souvent de l'anxiété associée. On va plutôt le prendre comme ça.
C'est ça.
Pourquoi? Parce que quand dans ta vie, tu intellectualises beaucoup, tu surinvestis beaucoup ta pensée, Tu te poses des questions là où d'autres enfants ne vont pas forcément se les poser, donc laisser couler, mais toi, tu prends plein cœur, t'analyses, tu fais des liens, etc. Quand tu as un sensoriel très développé, quand tu captes beaucoup de choses, forcément, avec ta maturité d'enfant, ça amène des stress. Ça semble logique, dit comme ça. Donc, souvent, on trouve une concomitance, mais ce qui est très chouette, c'est que c'est des enfants aussi qui ont un potentiel incroyable. De résilience et de ressources, et pour qui tous les outils dont on va certainement parler dans le podcast et toutes les approches psychocorporelles fonctionnent tellement, mais tellement bien, et ils sont tellement réceptifs. Donc ça, c'est génial.
Merci de le dire, merci, merci. Donc déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que ce n'est pas forcément en lien, c'est-à-dire que toutes les, il n'y a pas de lien entre l'anxiété et l'hypersensibilité en soi. Cependant, la caractéristique et l'intensité d'introspection, cette capacité effectivement de penser sur les choses, de tout remettre en question, peut générer chez certains enfants hypersensibles de l'anxiété. Ok.
C'est ça.
Est-ce que tu pourrais nous dire, et pour les parents qui s'intéressent à ça et s'interrogent, comment on peut reconnaître les signes de l'anxiété chez nos enfants et qu'est-ce qui est de l'ordre de la norme, donc j'ai l'impression plutôt qu'il est de l'ordre du stress ou de l'angoisse passagère, à vraiment un trouble de l'anxiété qui peut être pathologique, en tout cas problématique?
Alors, par rapport à ce que je vais lister, dans le trouble anxieux, c'est qu'on va cocher quasi toutes les cases. En fait, c'est là-dedans. C'est, comme je disais, stressé avant une poésie, c'est logique. Même stressé avant d'aller à l'anniversaire d'un copain, t'as hyper envie d'y aller, mais quand même, il y aura qui, machin, c'est normal. Par contre, refuser les invitations à aller à un anniversaire d'un copain parce que tu angoisses d'y aller, ne pas pouvoir aller à l'école le matin de la poésie parce que c'est impossible de sortir de la maison, là, c'est différent. Donc, c'est là-dessus où... On va s'inquiéter pour l'enfant du moment que ça invalide son quotidien et que ça l'empêche de faire des choses dans sa vie d'enfant. Voilà. Si l'enfant, malgré ça, peut aller à l'école, peut aller aux anniversaires des copains, dormir chez des copains, arrive à manger, etc., et arrive à réguler et son stress est passager, ok. Ça vient l'handicaper dans son quotidien, l'empêcher de faire des choses. Non, on va là, plutôt aller consulter. Les signes à observer. Premier signe, somatique, le corps. Je disais tout à l'heure, ressentir la boule au ventre. Tu vois, on a ces expressions-là. Les maux de ventre, c'est les maux de ventre, l'eczéma. On est vraiment sur vraiment le corps qui parle et au niveau du stress. Le cœur qui s'accélère, le souffle court. Des enfants qui peuvent avoir des douleurs articulaires, avoir mal partout, etc. On va avoir le sommeil perturbé, donc des réveils nocturnes, des difficultés d'endormissement ou des réveils très matinaux. On va avoir les signes émotionnels, des pleurs fréquents ou des accès de colère. Dans ce côté émotionnel, je vais mettre quelque chose qui, moi, m'importe beaucoup, c'est le désintérêt pour le jeu. Un enfant qui ne joue. Moi, c'est un signal d'alarme énorme. Un enfant qui ne joue plus ou qui ne joue pas. C'est vraiment
D'accord,
quelque chose. La santé de l'enfant réside dans le jeu.
Mais
Attention, le
de
jeu.
l'adulte aussi, hein, j'ai envie de dire. Enfin, ça dépend du
Oui.
jeu, mais totalement, hein, le fait de pouvoir
Exactement.
se
C'est
divertir.
la vie, quoi, le vivant. Voilà. Donc, un enfant qui arrête de jouer, etc. Avec, pareil, le repli social. Un enfant qui ne veut plus aller à son sport. Ne veut plus aller voir des copains, on lui propose d'en inviter, ouais, non, je préfère rester à la maison, qui s'enferme beaucoup, qui est moins dans les échanges et les interactions. Et le dernier signe, ça va être tous les signes d'insécurité, c'est-à-dire besoin d'être collé aux parents, une peur d'aller vers le monde, une angoisse d'être seul ou les angoisses face au changement. T'avais prévu telle activité, manque de peau, la voiture démarre pas, et là, c'est cataclysmique. Alors attention, j'ai bien pour tous les enfants, ce programme-là, pendant 1 heure, c'est l'enfer pour tous les enfants. Mais ça ne dure pas une journée.
Oui.
Voilà. Faut pas s'inquiéter si son enfant, on devait aller à Euro Disney et puis la voiture démarre pas. Oui, pendant 1 heure, il peut. C'est la fin du monde et c'est clairement la fin de son monde. Par contre, ça ne va pas durer 1, 2, 3 jours et ressasser et la voiture, elle n'a pas démarré. Voilà, tu vois, ça c'est différent.
Est-ce que là, s'il y a des parents qui nous écoutent, qui sont un petit peu stressés, dire, oh là là, je repère ça, je perds ça, tu vois, on va essayer de, voilà, peut-être de les soulager. Toi, tu disais tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on reconnaît certains signes, il faut pas hésiter, effectivement, à consulter. La question qu'on pose souvent, c'est, mais qui on va consulter? Grande question.
C'est ça. Alors, déjà, moi, je trouve toujours sympa d'interroger l'école et les enseignants. Comment les enseignants voient l'enfant? Parce qu'on peut, nous, avoir un enfant qui a la boule au ventre, qui est angoissé d'aller à l'école, la séparation est en pleurs, mais l'enseignant dit, au bout de 5 minutes, il ou elle s'éclate, elle a plein de copines, il a plein de copains, machin, il participe en classe, et le soir, on le retrouve avec la banane. Ok. On va bien moins s'inquiéter qu'un enseignant qui va nous dire, dans la journée, il y a eu des pics de mou, il y a beaucoup de pleurs, c'est vrai qu'on a dû vous appeler plusieurs fois pour venir le chercher, c'est très différent. Donc c'est là, on va dire, il y a de l'anxiété, enfin du stress normal, ça peut être compliqué, il y a des enfants pour qui la séparation devant l'école, ça peut être très longtemps compliqué, mais si l'enseignant dit qu'au bout de 5 minutes, ça roule, on va pas dire qu'on va aller en consulter un psy. Par contre, si dans la journée ça se reproduit encore, ou tu sais, dans les moments de changement, il y a la cantine, hop, ça repart, la garderie, ça repart, et que l'enfant est en grande section, parce que petite section, ça compte pas, tous les parents en petite section, on peut pleurer toute une année de petite section sans que ça soit inquiétant, mais
Merci de
l'enfant
préciser, on ne sait jamais. Merci de
c'est
préciser.
pour ça. Et tu vois, moi, je fais partie des parents où j'ai mes enfants, c'était des grands, enfin, mon premier a énormément pleuré en petite section, et c'est même de l'école.
Oh, mais ça, c'est extrêmement douloureux hein, pour les parents. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas
Ah,
rien. C'est
c'est
terrible
terrible.
de
J'ai
les.
un enfant qui adore l'école et voilà. Mais bon, c'est pour l'anecdote, hein, on a beau être psy pour enfants, on peut avoir l'enfant qui pleure le plus de toute la classe
Totalement.
et qui s'enfuit de l'école devant tous les parents. Enfin, c'est génial. Donc, quand on a l'enseignant qui alerte aussi. On voit qu'il y a des signes très répétés, c'est tous les jours où l'enfant est en difficulté. On n'hésite pas à consulter, même si, admettons, on va voir un psy, le psy dit, écoutez, madame, monsieur, pour moi, tout roule, il n'y a pas d'inquiétude. Ben, c'est pas grave, enfin, on n'a pas embêté le psy à y aller, au moins nous, en tant que parents, on se dit, bon, le professionnel m'a dit que ce n'est pas inquiétant, il m'a donné deux, trois trucs pour réguler la situation. Vu que moi, parent, je m'apaise par rapport à l'anxiété de mon enfant, je vais voir forcément, mon enfant va s'apaiser aussi, va se communiquant là-bas. Donc, parler aux enseignants, aller consulter un psychologue. Alors, si on peut, parce que je sais que c'est compliqué de trouver des psys, si on peut trouver un psychologue qui est spécialisé dans l'enfant et l'ado, c'est quand même mieux. Comme voilà, moi je préfère conseiller à mes patients adultes pour un traitement antidépresseur ou anxiolytique d'aller consulter un pédiatre, un psychiatre, que le médecin traitant. Voilà. Donc, si on peut arriver à trouver quelqu'un qui est spécialisé dans l'enfant ado, c'est très bien. Si on a une personne qui en plus a des appétences, des affinités avec tout ce qui est le psychocorporel dont tu parlais, si on voit ça sur le site internet, on se dit. Bingo, c'est pas mal aussi quand mon enfant est anxieux. Il y a aussi tout ce qui est les techniques de TCC. Donc les psychologues, moi je suis d'orientation psychodynamique, donc plus psychanalytique et intégrative. Donc il y a la technique des TCC, c'est une autre branche de la psycho, des thérapies cognitivo-comportementales, qui sont extrêmement efficaces sur tout ce qui est. Troubles anxieux, aussi voilà, TOC, parce qu'il y a beaucoup d'enfants troubles anxieux, il y a des TOC associés, etc. Donc c'est vraiment extrêmement efficace. Et on peut avoir aussi, mais alors là on commence à, dans l'entonnoir, c'est de plus en plus compliqué, trouver un psychologue spécialisé dans les enfants et aussi en EMDR enfants. Alors là je corse le truc, mais je trouvais ça important de le dire, qui est aussi une technique. Extrêmement efficace et intéressante face aux troubles anxieux.
Alors, si on ne sait pas trouver de psy, moi je dis souvent, et tu me diras ce que tu en penses, mais le but est de faire un premier pas vers un professionnel. Même si c'est par exemple le généraliste, ça ouvre la voie en fait à ouvrir la parole et potentiellement à la réorientation de ce professionnel vers quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Mais est-ce que toi aussi tu proposes des fois ça lorsque la personne ne sait pas du tout vers où aller, vers qui contacter? C'est toujours parfois l'angoisse. Je me dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux des fois, juste pour un premier contact, aller vers quelqu'un de confiance qui pourra nous réorienter possiblement?
C'est ça, si on a son médecin de famille, hein, c'est que maintenant il y en a, tu sais,
C'est
c'est un
enfin,
peu
moins. Moins.
décalé, compliqué, mais tu sais, tu as ton médecin de famille qui te connaît depuis toujours et l'enfant est rassuré, ben, c'est top. Ou des fois, c'est l'enseignant qui est une
Ouais.
figure de référence, on s'assoit autour de la table et on en parle, et l'enfant se rend compte de, ouais, mais on m'a compris, on m'écoute en fait, on entend tout ce que je suis en train de dire, même si c'est par mes symptômes physiques, on entend ce que je dis, ça fait déjà tellement de bien. Aussi, moi, ce que je conseille énormément, c'est d'emmener les enfants chez l'ostéopathe. On y pense
D'accord.
énormément pour les bébés. On est
Oui, c'est
toutes
vrai.
sorties de la maternité et on nous dit allez chez l'ostéo. Et puis après, on n'y va plus. Moi, je trouve que même pour les grands, je conseille d'aller au moins une fois par an chez l'ostéopathe. Pourquoi? Parce que tout l'émotionnel, et notamment aussi les enfants avec des grandes sensibilités, vont prendre beaucoup. C'est des enfants qu'on va voir, c'est avec les épaules un peu relevées, qui contracté, etc. Donc le corps marque aussi ces tensions-là et donc venir apaiser, détendre les tensions, détendre le plexus solaire, le ventre, etc. peut être déjà une grande aide pour notamment tous les signes somatiques de l'anxiété. Donc ça, je trouve ça intéressant de l'avoir en tête.
Super. Et justement, bah, tu m'offres une superbe passerelle quand on parle de petits outils ou astuces. Tu en as déjà cité plein, mais comme ça, est-ce que là, tu pourrais conseiller, voilà, deux, trois, allez, tips aux parents qui nous écouteraient et qui aimeraient, en attendant de trouver peut-être le professionnel, la professionnelle adéquate, ou même eux, parce qu'on peut se sentir très démunis face à des fois des crises d'angoisse des enfants où ça part en intensité émotionnelle très, très élevée, soit par peur parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école, soit après un événement, voilà. Comment on peut accueillir l'émotionnel de nos enfants? Est-ce que tu as des petits tips ou outils là à partager en fait?
Alors, ce que je vais dire, c'est que quand ça éclate, quand on est au pic de l'angoisse, il n'y a rien à faire.
On est dans le rouge, c'est trop tard.
Quand on est au pic de la colère, etc., là, à part s'asseoir à côté de l'enfant, lui ouvrir les bras, s'il a envie d'être touché, s'il n'a pas envie, voilà, c'est dire, est-ce que tu as besoin que je te serre dans mes bras, juste m'asseoir à côté de toi, hop, montrer qu'on est là. Mais sur le moment, on ne va pas sortir. C'est carte émotion, vas-y, une bouteille sensorielle. Non. Par contre, tous ces outils-là, on va les utiliser en dehors des pics d'angoisse, notamment dans les moments calmes, pour permettre là au cerveau d'apprendre à se réguler. Et donc, au lieu d'avoir une montagne qui fait qui monte comme ça, bah, peut-être qu'elle sera un petit peu moins haute. Et donc, l'intensité de l'explosion va donc diminuer. C'est comme ça qu'on va agir. Donc, c'est bon, déjà avoir un accès à l'enfant autour des émotions, connaître ses émotions, les verbaliser, lui donner de la place à la maison. Donc, ça veut dire que les parents vont devoir eux aussi parler de leurs émotions. À chaque fois aux consultes, les parents me regardent, font ah.
J'étais pas venue
Ça peut être très facile, je dis, bah, je m'en doute, c'est pour ça. Donc, si un enfant n'entend jamais son parent mettre un mot sur ce qu'il est en train de vivre intérieurement, comment tu veux que l'enfant le fasse pour lui? L'enfant, il est au spectacle de ses parents. Hein. L'enfant, c'est ça. J'observe et je prends, je fais pareil ou différemment. Donc, ne serait-ce que dire, mais écoute, là, j'ai besoin juste de prendre 5 minutes en rentrant du travail, parce que j'ai une journée très stressante. Je me sens pas très bien, donc là, je suis pas dispo. Je vais boire un verre d'eau, m'asseoir un petit peu. Dans 5 minutes, j'arrive et on parle de ta journée. Hop, je mets un timer quand ça sonne, mais ce temps-là, là, moi, j'ai besoin d'être toute seule ou tout seul. Pareil pour la colère, etc. En apprenant à faire ça, l'enfant va apprendre aussi, lui, à le faire et à écouter ce qui se passe en lui. Ça, c'est une chose. Pour accompagner l'enfant, on ne va pas hésiter tout ce qui est imager des émotions pour les tout-petits, livre sur les émotions. On a une chance folle d'avoir une littérature jeunesse absolument incroyable autour des émotions. Même si on ne sait pas quoi prendre, on ne va jamais se planter en prenant un livre sur les émotions. Donc, aucun souci là-dessus. Pour les tout petits, je conseille plutôt les visages, vraiment les imager des émotions avec des vrais visages d'enfants. Ça sera beaucoup plus simple qu'un personnage, on va dire, jusqu'à l'entrée en maternelle, on va préférer ça. tout ce qui est carte émotion. On tape sur Google, carte émotion, on les imprime, enfin c'est gratos. On a les personnages, c'est super simple. Et là, c'est juste dire à l'enfant, bah tiens, juste le soir, on étale 4-5 cartes sur la table. Chaque membre de la famille va montrer la carte qu'il a ressentie le plus durant la journée. Et en fait, prendre cette habitude de se dire, les émotions font partie du quotidien. C'est très simple. Ça peut être, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire des devinettes sur les émotions.
C'est-à-dire, Dean.
Bah, le parent, par exemple, va décrire et l'enfant devine. Alors, c'est une émotion où, quand on la ressent, on peut avoir l'impression qu'on a du rouge qui vient aux joues. Des fois, on a les poings qui se ferment, les dents serrées, on a envie de crier.
Ah, pas mal. C'est comme
Et en
ça,
fait,
c'est ludique, toujours dans le côté ludique, en fait.
ah bah toujours, il faut toujours passer par là et après c'est à l'enfant de le faire. Si l'enfant est un peu petit, il peut la mimer. Pas le dire avec mots, mais la mimer. Et ça, c'est super chouette aussi parce qu'il va devoir la ressentir à minima dans le corps pour la jouer. Et là, le cerveau t'envoie des infos géniales parce que l'enfant va ressentir une colère qui est totalement maîtrisée. Cerveau entend, ok, colère, mais pas danger.
Ouais. Et il va l'associer du coup cette sensation corporelle avec l'émotion qu'il est en train de faire.
Exactement. Donc ça, c'est absolument top. Donc il y a tout ce côté émotionnel et à côté, on n'oublie pas le côté corporel. Parce que une émotion se vit en premier lieu dans le corps. Pas dans la tête, pas dans le cœur. Moi, j'ai des patients qui me disent dans mon cœur. Je dis oui, mais j'ai en premier, c'est ton corps et puis ton corps envoie l'information à ton cerveau. Mais en premier, c'est le corps qui reçoit. Donc si on aborde les émotions avec l'enfant que du côté, on va dire, intellectuel par les jeux, les livres, etc., on passe à côté de la moitié du taf qui est le corps. Donc là, c'est des massages. On n'y pense pas, mais pareil, c'est des choses qu'on fait tellement naturellement avec les bébés qu'on fait plus avec les grands.
C'est vrai.
Des temps de massage, ça peut être des temps d'automassage. Donc on prend des petites balles sensorielles, tu sais, les balles à picots, etc., que l'enfant peut passer dans ses mains, sous la plante de pied, ou on lui fait dans le dos. Et puis on pense à dire à l'enfant, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a un endroit où c'est plus agréable? Peut-être un endroit où ça chatouille plus? Tu vois, s'habituer à dire, qu'est-ce que mon corps est en train de ressentir? S'interroger sur le corps. Et donc, pour ça aussi, j'aime bien tout ce qui est le matériel lesté. Ça, c'est un
D'accord.
gros coup de cœur pour ça. Que ça soit les petits personnages lestés, ce qui est pour les épaules, les couvertures ou quoi, juste pour que l'enfant puisse ressentir. Donc on va faire ça sur des temps, notamment sur des temps calmes. Après, il y a des enfants qui vont avoir l'habitude et quand ça va pas, vont le prendre naturellement. Et juste pouvoir, en fait, c'est vraiment une aide qui aide à ressentir le corps et ressentir les différentes parties de son corps.
Que
Donc
tu
c'est
veux
sur.
dire, ouais. Du coup, je suis pas sûre que le lien soit très clair. Ce que tu veux dire, c'est qu'en aidant l'enfant de ressentir comment est son corps, il aura plus de facilité à détecter l'arrivée d'une émotion dans son corps.
C'est ça, parce que si déjà j'apprends à écouter mon corps, les différentes sensations, et vraiment, tu sais, mon schéma corporel, quoi, ma tête, ce qui se passe, c'est là, etc. Quand l'émotion va venir, j'ai plus pouvoir me dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai mal dans le ventre. Pourquoi j'ai mal dans le ventre? Bah, je me sens stressée. Et en fait, le fait de découper comme ça un peu tes sensations et tes émotions, tu as plus de contrôle dessus, tu en as moins peur. Que quand en fait tu ressens des choses sans savoir d'où ça vient et ce que c'est beaucoup plus angoissant.
Du coup, je fais lien, puisque je vois que quand même tu connais un petit peu le TDAH, voire un peu beaucoup, avec ces enfants qu'on a parfois du mal à, de par leur hyperactivité, même si ce n'est pas toujours le cas, peut-être à se poser, à faire justement ces exercices de massage. C'est pas toujours facile avec un enfant TDAH. Est-ce que tu as d'autres outils pour ces parents qui seraient avec un enfant TDAH? Donc, le rapport de corps est encore différent, le rapport au corps.
Le corps a besoin d'être en mouvement. Donc, on va garder en tête qu'on va chercher ce mouvement. Par exemple, si je reprends les balles sensorielles ou n'importe quelle petite balle, on va se lancer la balle avec l'enfant. Et en parlant de l'émotion, l'enfant, il rentre, il est hyper en colère, la journée était compliquée. Ok, on va pas juste parler, qu'est-ce qui s'est passé? Direct, une balle ou une peluche, hein, et on se l'envoie. Allez, raconte-moi. Et en fait, le fait de mettre le corps en mouvement en lançant la balle va amener une régulation qui fait que l'enfant va pouvoir plus facilement parler de ce qui s'est passé et apaiser l'émotion par le corps en mouvement.
Top. Je connaissais pas cette astuce, tu vois, de lancer en parlant, et pour autant, c'est quelque chose que tu fais assez naturellement. Et tu vois, je le vois un peu plus chez les petits garçons qu'on propose ça que chez les petites filles. Par sexisme, hein, du coup. Mais c'est vrai que pour les petites filles, on a moins tendance à jouer, à lancer quelque chose, à se lancer quelque chose, tu vois. Je le
Et
remarque
ça,
beaucoup.
moi en consultation, ça marche super bien.
Ah oui, ça
Et
m'étonne pas.
garçon comme fille, quoi, sont de fait de devoir lancer ça, ou même on met un parcours psychomoteur à la maison, et puis pendant qu'on fait ça, on discute, on peut dire bah tiens, là tu fais un tour de parcours en pensant à une émotion qui t'a stressé. Et t'as ressenti quoi? Et hop, en le refaisant plusieurs fois, ça va réguler l'émotion. Et l'enfant peut sentir, bah, ça me stresse moins, je suis moins tendue dans les épaules, mais par le mouvement, clairement.
Alors, je suis obligée de poser cette question parce que je suis persuadée qu'il y a des parents qui se la posent en disant, mais moi, mon enfant, il ne me parle pas, il ne veut pas parler, je ne sais pas s'il y arrive ou n'y arrive pas, mais en tout cas, il ne me raconte rien. Ça arrive souvent. C'est encore plus angoissant pour le parent. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre à ces parents?
D'observer. L'enfant, il parle, même si c'est pas avec des mots. Moi, ça m'est arrivé que des parents me disent bah, je vous emmène en consultation, mais vous arriverez à rien, il parle pas. Je dis, ça dépend. J'ai d'autres manières de le comprendre. Et ça va être observer les jeux de son enfant et jouer avec lui. Dans le jeu, l'enfant, il vous raconte toute sa vie. Apprenez à vous asseoir, à jouer, tu vois, au Playmobil, à jouer à l'école. Et là, l'enfant, il te met sur un plateau ce qu'il vit. Hein.
Totalement. Il y a des parents, on le voit un peu, les parents ont honte de le dire, et pour autant, c'est une vraie problématique. Il y a beaucoup de parents qui ont du mal à jouer avec leurs enfants, pour plein de raisons. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller?
Ne jamais jouer un jeu qui nous plaît pas.
Ok.
Je déteste jouer aux petites voitures. J'ai deux garçons. Je ne rêve qu'une chose, c'est de jouer à la poupée. Mais j'ai des garçons qui ne sont pas hyper intéressés par les poupées. Les petites voitures, je n'y arrive pas. Ça m'intéresse pas. Et les Lego, je n'y arrive pas. Alors j'ai des garçons fans de Lego parce que j'ai pas de capacité de vision dans l'espace. Donc je n'arrive
Ah
vraiment pas. Un petit côté dyspraxique. Je n'arrive vraiment pas à faire des Lego. Ben, ils savent. Maman fait des Lego, je dis, mais maman, elle ne sait pas faire des Lego. Donc, ils savent, c'est avec papa, et papa est très doué. Donc, par contre, moi, je dis, mais moi, j'adore jouer à la cuisine, à la dinette, aux jeux d'imaginaire, que par contre, pour le coup, le papa, ce n'est pas son truc. Pour les enfants,
on est dans les clichés, mais au moins on sait chacun ce qu'il aime et ce qu'il aime pas, quoi.
il y en a un, c'est la construction, l'autre, l'imaginaire, c'est parfait. Et en fait, c'est tellement dit de manière tranquille chez nous, nos enfants savent, bah, il y a des jeux qui plaisent pas à papa, pas à maman, enfin, ça n'en fait pas un problème. Donc ne jamais, oh, mais vraiment, ne vous forcez jamais à faire un jeu que vous aimez pas. Il vaut mieux pas jouer que de se forcer à faire un jeu qu'on n'aime pas. Par contre, de chercher, si un parent n'aime pas jouer, mais kiffe cuisiner, bah, qu'il cuisine avec son enfant. C'est pareil d'avoir fait une demi-heure de jeu de société qu'une demi-heure de cuisine dans le remplissage affectif de l'enfant ou la pâtisserie ou du bricolage. Moi, j'ai des papates de patients, ils me disent, ouais, mais de toute façon, moi, j'aime rien faire et puis je suis occupée, je refais toute la maison. Bah, faites avec lui. Et en fait, il découvre que l'enfant est hyper intéressé de lui donner les outils. Un gamin qui n'arrive pas à se poser, mais parce qu'il a cette tâche, ne se met absolument pas en danger. Et en fait, d'un seul coup, ils découvrent qu'ils peuvent partager ensemble quelque chose de génial qu'ils ne pensaient pas du tout possible pour l'enfant. Donc, si ce n'est pas du jeu à proprement parler, il y a d'autres manières de jouer. Voilà, cuisiner, bricoler, faire du vélo, jardiner. Enfin, forcément, le parent trouvera quelque chose. Enfin, lire, les loisirs, trouvera quelque chose pour entrer en relation avec l'enfant. Ça, je suis convaincue.
C'est ça. C'est passé, donc c'est des moments de qualité, qu'importe le moment, qu'importe ce qu'on fait comme activité, des moments de qualité pour pouvoir permettre eh bien, ce lien, cette confiance pour que l'enfant et le parent puissent se parler. Et du coup, je vais faire le pont avec bah, potentiellement les angoisses du parent, les parents qui peuvent être en burn-out parental. Pour plein de choses, parce que notamment bah, les atypies d'un enfant, c'est aussi très intense, même si c'est pas directement en lien, parce que le burn-out est plus complexe que ça. Quand on n'arrive pas à être disponible mentalement, émotionnellement pour son enfant, et pour autant qu'on voit que c'est un enfant qui est angoissé ou qui a de l'anxiété, on culpabilise encore plus. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces parents-là?
D'avoir confiance dans leurs enfants qui ont des capacités de résilience incroyables Et l'enfant est totalement capable de pouvoir se dire, pendant un temps, je sens que mon parent n'est pas dispo. En mettant des mots dessus, en expliquant, là pour maman, pour papa, en ce moment, c'est compliqué. Peut-être que tu me sens comme ci, comme ça. C'est pas de ta faute. L'enfant a juste besoin de savoir ça. Et maman ou papa, prends soin d'elle. Il y a un médecin qui l'accompagne. Ok, l'enfant, c'est pas de ma faute et j'ai pas à m'en occuper. Maman, papa est pris en charge. L'enfant a rien besoin de plus. Et après, quand ça ira mieux, le lien, il va se retrouver. Et c'est tout ça l'important. C'est pas tant que pendant une période, ça a été compliqué et le parent a moins pu être présent et là. L'important, c'est surtout le moment où on va se retrouver et que l'enfant sente aussi que il y a d'autres personnes dans sa sphère sur qui il peut se reposer. Peut-être que là, papa, pour l'instant, c'est compliqué, mais maman, elle est là, ou il y a mamie, j'ai mes tantes, etc. Et puis, ça peut tourner. Et c'est hyper étayant pour l'enfant de voir qu'il a aussi plusieurs modèles de référence et qu'il n'a pas une personne comme un phare sur qui se fixer. Non, j'ai différentes personnes qui m'apportent différentes choses selon mes besoins. Ça, c'est top.
C'est hyper important ce que tu dis là, parce que on a beaucoup de parents, et notamment les femmes, qui culpabilisent très très vite de passer le relais en fait, de demander de l'aide. Elles ont la sensation que, et la société amène cette idée que j'ai voulu être mère, j'assume jusqu'au bout, quitte à vraiment sombrer totalement.
C'est ça. Alors que c'est tellement important pour nos enfants de leur montrer que on n'y arrive pas sur tous les fronts, ça veut dire que eux n'ont pas à le faire non plus.
Totalement.
En me montrant pas superwoman qui arrive à tout, qui dort pas, qui est au boulot, qui gère la maison, qui fait les sorties scolaires, les goûters maison, machin, mon enfant, je lui enlève juste de la pression de se dire, bah j'ai pas à être parfait non plus en fait.
C'est
Bah
ça.
voilà. Enfin, il y a que ça qui compte, quoi.
Ouais, c'est très très bien dit, cette autorisation à l'imperfection en fait.
C'est
Totalement.
ça.
Cependant, il y a quand même cette culpabilité. Et puis, j'ai beaucoup de parents qui me disent, mais de toute façon, les chiens ne font pas des chats. Je suis quelqu'un de d'angoissé. Donc, mon enfant, malheureusement, le sera aussi. Vrai ou pas vrai?
Non. Non, totalement faux. Enfin, totalement faux. Effectivement, les chiens font pas des chats. Ça, je suis d'accord, totalement d'accord avec ça. L'enfant, c'est Winnicott, qui est un psychanalyste dont j'affectionne beaucoup le travail. C'est un bébé tout seul n'existe pas. C'est très juste. Un bébé tout seul n'existe pas. Un enfant tout seul n'existe pas. L'enfant, il existe dans son environnement familial. Donc, forcément, ce que vivent mes parents, comment fonctionnent mes parents, comment fonctionne notre système, a une incidence sur moi. On va pas se. Bon. Donc, si j'ai des parents extrêmement stressés, je donne un exemple. Si je fais du vélo avec papa et que sans cesse papa me dit attention, attention, le trottoir, attention, attention, le trottoir, machin, d'un coup, dans les 5 minutes, je vais me viander. Parce que je me dis, si mon père est angoissé, c'est qu'il y a du danger, je risque quelque chose, je vais me cramponner sur mon vélo et là, je risque effectivement de ne pas être détendue et de tomber. Donc là-dessus, effectivement, ça joue. C'est plus sur ce bain environnant dans lequel est l'enfant. Par contre, strictement, comment fonctionne le parent qui fait que par une génétique, l'enfant sera comme ça? Non. Donc, si je suis un parent angoissé, mais que je travaille sur mon angoisse, que si, admettons, je suis conscient, moi, en tant que papa, emmener mes enfants faire du vélo, ça ne m'est pas possible. Peut-être qu'enfant, je me suis cassé une clavicule, je suis très anxieux, je ne sais pas faire du vélo. Eh bien, je ne serai pas un papa qui emmène mes enfants en vélo, je laisse maman le faire. Ou le tonton, le grand-père, qui on veut. En faisant ça, par contre, là, je ne vais pas projeter mes angoisses sur l'enfant. Je garde mes angoisses à moi, je les régule, et l'enfant, il fait sa vie en dehors de mes angoisses.
Et du coup, est-ce que les astuces que tu nous as proposées pour les enfants, alors c'est vrai que tu as fait le pont avec les parents, mais est-ce qu'on peut utiliser les mêmes pour les parents ou est-ce qu'il y a des différences à prendre en considération pour nous-mêmes accompagner nos propres angoisses de parents?
Alors, partager ces temps-là avec l'enfant, je trouve ça chouette. Parce que déjà, c'est des moments de qualité qu'on passe et ça fait du bien à tout le monde. Ce qui est intéressant de rajouter pour les parents et pour les enfants aussi, et même à vivre ça ensemble, c'est tout ce qui est les techniques de respiration. Respiration, yoga aussi. Et tu vois, avoir le réflexe, si je suis un parent qui est quand même soumis à beaucoup d'anxiété, le réflexe de me faire des pauses dans ma journée, ne serait-ce que pour respirer par le ventre, ou faire de la cohérence cardiaque, ou trouver Le type de respiration qui me convient, la respiration carrée, enfin, il y en a des tas, on les essaye, on voit ce qui me convient et je prends l'habitude d'une routine dans ma journée où je mets ces moments-là de respiration ou de visualisation positive. Et par contre, voilà, je me crée ces temps-là pour réguler mon anxiété sur le fond et donc bah, aussi le soir ou le week-end être plus disponible pour mon enfant. Et moins une boule de stress.
Ok, bon, tu as été super généreuse en information. C'est vrai qu'on voit bien que tu maîtrises super bien le sujet et je suis persuadée que d'ailleurs nos auditeurs vont me demander, est-ce que toi tu proposes des consultations ou non? Est-ce qu'aujourd'hui vraiment tu proposes davantage des accompagnements en ligne? Qu'est-ce que tu proposes si les gens veulent te contacter? Parce que là, ils se sont dit, mais il faut absolument que je voie avec Marine si je suis concernée.
Alors. Là, je ne vais pas me faire des copains. Non, je suis pas en possibilité de prendre personne. Ça fait déjà bien 2 ans que j'arrive plus à prendre de nouveaux patients. Par contre, je suis très généreuse sur mon compte Insta où
C'est vrai.
quasi tous les jours, je donne. Voilà, moi, ça fait 12 ans que je suis en exercice et 12 ans que je suis absolument passionnée par l'enfant, passionnée par les émotions et puis les atypies, mais parce que voilà. Je connais aussi. C'est pas pour rien qu'on travaille avec des enfants atypiques, hein,
C'est ça.
forcément. Donc voilà, sur mon compte Insta, j'essaye de donner un maximum de ressources. Je travaille à des projets, mais ça prend du temps d'accompagnement pour les parents. Et par contre, pour l'instant, mes ateliers qui sont dispo, c'est les accompagnements des professionnels. Quand tu parlais de la formation du TDAH, et j'en ai tout un tas d'autres. C'est vraiment pour transmettre aux professionnels, psychologues, thérapeutes ou tout professionnel qui accompagne l'enfant, mes outils, mes
Oui.
expertises, justement, bah, pour donner aussi le relais et puis faire rayonner ces outils et qu'il y ait un maximum de pros pour accompagner les parents.
Ah, super, stop. Et c'est vrai, hein, il faut pas hésiter à aller sur son compte. Moi, je t'ai découverte comme ça et j'ai adoré. Et bon, je plussois tout ce que tu dis, mais je connais la qualité de ton travail et c'est fait avec beaucoup, beaucoup de générosité. Et merci pour ça, parce que ça se sent.
C'est gentil, ça me touche beaucoup.
Ouais. Écoute, merci beaucoup. J'ai juste envie de te demander, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu auras envie de rajouter, dont bah, j'aurais oublié de te poser la question et que tu trouves que c'est assez pertinent pour le rajouter?
Je voudrais juste rajouter de ne pas avoir peur des émotions de ses enfants et des siennes, aussi intenses soient-elles. L'émotion ne va, ou l'intensité de l'émotion, même l'intensité d'une angoisse, ne va pas abîmer l'enfant. Ne va pas tuer qui que ce soit. On a les capacités de la surpasser, de la réguler. Elle vient aussi nous donner plein d'infos sur soi, sur ce qu'on vit. Donc, moins on en a peur et mieux on va pouvoir vivre avec le temps où elle a besoin de nous accompagner.
Carrément, carrément. Et je te pose une dernière question que j'aime bien poser de temps en temps. C'est parce que tu en as un petit peu parlé au début, donc je vais, tu vois, fermer la boucle là-dessus. Pour toi, les atypies, si elles devaient être un super pouvoir, un super potentiel, ça serait quoi?
La capacité d'adaptation.
Faux.
C'est le premier truc qui me vient. J'ai vraiment une confiance, mais dingue, dans mes patients. Enfin, je parle des enfants que je connais, mais je sais quand je les reçois, même dans les difficultés dans lesquelles ils sont, je sais qu'on va pouvoir bosser, qui ont des capacités de résilience incroyables. Et de pouvoir transformer leurs difficultés en réel atout. Même s'il peut rester des choses compliquées, mais en tout cas, enfin, vraiment, ils vont faire quelque chose, ils arrivent à. Ils connaissent tellement bien le monde, après, ils arrivent à se connaître, etc., pour s'adapter dans les situations, savoir là où c'est OK pour eux, là où ça ne l'est pas, et se positionner en tant que tel. Donc, vraiment, pour moi, j'ai. Aucune inquiétude en fait pour ces patients.
Merci Marine, on va finir là-dessus, c'est parfait parce que je pense que ça va rassurer beaucoup, beaucoup de parents. Donc merci à toi, merci pour toutes les informations que tu nous as données qui sont très précieuses. Et puis n'hésitez pas, voilà, à aller sur son compte. En barre d'infos, il y a tous les liens. Et encore une fois, merci beaucoup Marine.
Ben, merci mille fois, Elodie.
C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!